ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Simone Lagot. Bonsoir Simone. Vous êtes pharmacien, professeur d'économie, et vous animez l'un des quatre groupes bibliques œcuméniques, puisque nous allons vers la semaine pour l'unité des chrétiens, la troisième semaine de janvier. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre foi, de vos convictions.
Oui, mais écoutez, c'est avec plaisir, parce que partager ce que l'on vit et ce dont on vit est toujours quand même aussi une occasion pour soi-même de réfléchir et de relire un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, et donc de se dire où est-ce que j'en suis.
Une vie très riche. Je ne vais pas commencer pour dire que vous êtes grand-mère de 11 petits-enfants, c'est très important.
C'est une joie.
Mais aussi vos engagements dans l'œcuménisme, avec votre mari.
La paroisse. Je suis dans l'équipe de liturgie de ma paroisse depuis...
Christ-Roi.
À peu près plus de 30 ans.
Et vous avez vu passer 7-8 prêtres, curés de cette paroisse.
Voilà.
Mais au départ, une famille... à la fois croyante et partagée.
C'est-à-dire que, d'abord, je suis un pur produit de l'enseignement public. Mes deux parents ont fait l'école normale d'instituteurs, maman à Chambéry, mon père en Lorraine. Et ma grand-mère savoyarde a été une des toutes premières institutrices de l'école normale de Chambéry. C'est-à-dire que j'ai été, et je suis fille d'enseignant, mon père était prof de maths, puisque donc, après avoir fait l'école normale, il a fait Saint-Cloud, prof de maths, et quant à maman, qui avait fait l'école normale de Chambéry, après le brevet supérieur à 16 ans, elle est partie à Paris, en classe préparatoire au lycée Chaptal, donc ça dans les années 1933,
oui,
ce qui n'est pas rien quand même, hein, pour faire technique commerce, qui maintenant est devenu Cachan. Mais mes parents ayant eu 5 enfants, maman n'a pas exercé son métier, mais je suis quand même fille d'enseignant. Et si je suis devenue enseignante sur le tard, c'est pas sans raison.
Très bien.
Mais j'ai commencé par être pharmacien. Et alors, ça, je dois ça à une lecture qui est La petite fadette de George Sand. Dans notre jeunesse, on lisait George Sand. Et dans cette petite fadette, la petite fadette, donc, qui était assez miséreuse, mais elle ramasse des plantes pour sa grand-mère et elle soigne les gens. Et j'ai toujours été attirée par l'idée même que la nature, parce que je suis très sensible à la nature, nous donnait les moyens, finalement, de répondre aux problèmes que l'on avait au point de vue santé. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis devenue pharmacien.
Et aujourd'hui, dans cette période de pandémie, où il y a une angoisse qui se diffuse à travers les ondes, et puis des mauvaises nouvelles, vous dites c'est important de savoir garder raison, mais aussi de s'ouvrir au spirituel.
Je dirais que ce n'est pas uniquement que ça. Si vous voulez, je pense que finalement, ce qui nous caractérise, nous, c'est que nous savons que la mort est.
Nous les chrétiens.
Nous les chrétiens. Et que donc cette certitude que ça ne sera pas fini après la mort. Finalement, on a un passage sur Terre. Donc, l'épidémie, qu'est-ce que c'est? On n'est pas un an près. C'est pas la panique absolue. Vous comprenez? Il y a quelque chose quand même, moi. Je me dis, il faut faire confiance. Si on a la foi, c'est quoi? C'est faire confiance. De savoir qu'on est aimé. Donc, on fait ce qu'on a à faire, on le fait bien, c'est-à-dire qu'on prend les mesures qu'il faut, mais le reste, mais faisons confiance à Dieu. Si son plan est de nous faire laisser vivre, eh bien, on vivra. Et si par hasard, on ne doit pas, eh bien, on ne fassera pas. Mais bon, il faut quand même aussi savoir vivre. Parce que je pense plus important à l'heure actuelle de garder le sens fondamental de ce qu'est la vie au lieu d'être uniquement obsédé par le Covid. Parce qu'après tout, hein, nos ancêtres, ils en ont vu des épidémies, des pandémies. C'est vrai que je me souviens, moi, en fac, quand on apprenait les pandémies, parce qu'on les a apprises toutes, forcément, y compris la grande peste de 1346-1348, qui a décimé quand même la moitié de l'Europe. Sans compter celle de choléra. Rappelons-nous Pasteur. Rappelons-nous quand même la peste. C'est quand même Hyrcin, qui est quand même un pasteurien, qui trouve quand même que c'est la peste. Et un autre pasteurien, Salomon, qui trouve que c'est la puce qui est responsable. Donc, si vous voulez, on est quand même... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Rappelons-nous les morts qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'on a comme morts maintenant? C'est incroyable cette panique. C'est pas logique.
On parle plus des accidents de voiture, mais sans cesse on nous ressasse qu'il y a tant de morts ou tant de personnes qui sont infectées, qui vont peut-être infecter d'autres. Donc on a peur des autres.
Et voilà. Et par contre, est-ce qu'on a conscience qu'on est soi-même responsable? Je n'en suis pas si sûre.
Et on a besoin de spiritualité?
Alors ça plus que jamais, parce que moi je suis un peu...
Révoltée, vous me disiez?
Oui, révoltée quand j'entends dire qu'on met sur le même plan l'ouverture des églises et l'ouverture des discothèques. Non, ce n'est pas la même chose. L'homme n'est pas uniquement un morceau de viande, c'est-à-dire notre part animale. Effectivement, notre part biologique, on est des animaux, des mammifères. Mais nous ne sommes pas que ça.
Et vous
parce
avez
la différence apporté... avec les mammifères, c'est que nous, on a la notion du temps que l'animal n'a pas. Donc, nos besoins spirituels sont bien aussi importants que nos besoins biologiques. Et ça, l'Église, que l'on veuille ou qu'on ne veuille pas, le fait que ce n'est pas uniquement venir chanter, on refait communauté, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Et je crois que cette notion de collectif est fondamentale pour passer comme il faut les événements que nous vivons.
Et vous avez apporté un cantique, « Tu fais ta demeure en nous, Seigneur, toi, le tout petit, le serviteur ». Avec Simone Lago, ce soir, nous parlons bien sûr de cette pandémie, mais nous parlons aussi de notre foi qui nous amène à dépasser nos peurs et nos craintes. Et vous avez apporté aussi une belle image du Christ en croix qui sourit. Vous l'avez vu, vous avez été amoureux de ce visage souriant du Christ sur la croix à Manresa.
C'est le Christ de la maison d'origine d'Ignace de Loyola. Alors, il a un truc très particulier. Il est en train de mourir et toutes ceux et celles qui ont eu un enfant nouveau-né ou jeune, enfin jeune enfant, dans les bras, au moment où, repu ou confiant, il est là, il se laisse aller l'enfant. Et il a cette espèce de sourire aux anges qui nous émeut, mais au plus profond de nous-mêmes quand on a un enfant comme ça dans les bras, les yeux à mi-clos, au moment où on sent qu'il est dans une confiance absolue, qu'il se laisse. Eh bien, ce Christ de Manresa, il est en train de mourir. Et il a le visage qui est sur le côté, mais les yeux mi-clos, et un espèce de sourire qui apparaît. Et je me dis, voilà, il est en face de son Père.
Abandon, laisser prise,
non, c'est plus
malgré
que
la
ça.
Souffrance.
C'est plus que ça. Il est au-delà de tout. Ça y est. Maintenant, il est en face de l'amour total. Et j'espère que jour, moi, au moment de ma mort, c'est ça que j'aurai à vivre. Je le souhaite vraiment parce que je trouve que finalement c'est ça. La foi, c'est se dire, bon, je ne suis pas terrible, je fais plein de bêtises, j'ai fait des trucs dont je ne suis pas contente, dont j'aimerais mieux que ce soit qu'autre chose, etc., etc. Mais quand même, ce n'est pas possible. Un Dieu d'amour, c'est ça que je rencontrerai un moment. Alors, pourquoi avoir peur?
Vous avez eu peur quand vous êtes venu à Toulouse, un grand déménagement? Il fallait changer de vie, il fallait changer
de ville.
Oui, mais
enfin, j'étais mariée, amoureuse de mon mari, donc il était hors de question que je n'abandonne pas mon métier et que je ne vienne pas. Ça ne se posait même pas comme idée.
1974.
Et oui, on arrive à Toulouse, mais comme beaucoup de gens, on a été décentralisés. L'entreprise de mon mari a été décentralisée à Toulouse, donc voilà.
Il fallait trouver un métier.
Non, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai arrêté de travailler parce que j'étais dans l'industrie pharmaceutique, puisque c'est ça pour ça que j'avais fait pharmacie. Je voulais être dans l'industrie. Il n'y en avait pas à Toulouse. Donc, le problème a été résolu. Et à ce moment-là, nous avons eu des enfants. Donc, mais je me suis engagée tout de suite dans une organisation de consommateurs, où j'ai été très, très active. Parce qu'après pharmacie, tout en travaillant, j'ai fait une formation d'économiste et une formation de spécialisée dans l'industrie pharmaceutique au point de vue juridique. Donc ma formation d'économiste que j'avais, et puis je l'avais exercée dans le métier que j'exerçais en tant qu'industrie, l'industrie, je l'ai mis au service des consommateurs. C'était le début dans un mouvement qui s'appelle l'Union féminine civique et sociale, qui était l'UFCS, où j'ai, pendant près de 15 ans, j'ai exercé des responsabilités. Et puis sur le tas. J'ai fait beaucoup d'émissions de télévision à cette époque-là pour faire connaître ce qu'apportait quand même une organisation de consommateurs et aussi le fait de faire des lois qui défendaient les consommateurs. Et je suis devenue enseignante tout à fait par hasard.
Par au scout? Parce que vous étiez
par le scoutisme où nos enfants étaient au scout, il y en avait d'autres, et aussi parce que je préparais dans ma paroisse souvent des prières, enfin au moment de la cérémonie pénitentielle, ou pour Pâques ou pour Noël, et que donc je travaillais avec d'autres, et que dans cela il y avait un chef d'établissement, et que le jour de la rentrée m'ont dit: j'ai un prof d'éco qui m'a fait faux bond, est-ce que Simone vous voulez pas prendre des heures de cours?
Sainte-Marie-des-Champs, puis voilà. À Liège.
Et du coup, j'ai passé le CAPES dans la foulée, parce qu'au bout d'un an, je me suis dit oui, c'est pas mal finalement. On avait fait de la catéchèse avec mon mari, l'adolescent, c'est-à-dire la préparation à la confirmation, seconde, première, terminale. Donc les ados ne me faisaient pas peur. J'avais l'habitude finalement, en faisant de la catéchèse, tous les mardis, tous les 15 jours. Donc finalement, j'ai dit oui, ça me plaisait, et puis je suis fille d'enseignant. Il n'y a rien à faire, à un moment ça ressort.
Et la laïque, la privée,
publique,
oui.
C'est pas la même chose. Mon père avait une foi très profonde. Et il l'exerçait, vraiment. Dans son métier, il avait le souci de ses élèves, de ses étudiants. Après, il était en classe préparatoire. Et la manière dont ses élèves, quand ils le rencontraient, lui disaient « Ah, merci de ce que vous avez fait pour nous ». Non, on peut être enseignant dans l'enseignement public en ayant une foi très vraie. Et donc, ce n'est pas incompatible. C'est pour ça que le côté, quand on dit l'enseignement laïque, me gêne, parce que ce n'est pas tout à fait ça.
Vivre sa foi sans forcément parler de Dieu à chaque moment.
Oui, mais c'est dans la manière dont on est qu'on vit sa foi.
Dans la justice.
Mais la manière dont on s'occupe des étudiants, si on est proche d'eux, ils savent qu'ils peuvent venir vous demander conseil, que vous êtes toujours là disponible, que... Voilà, c'est dans la manière avec les collègues. Mais dans l'industrie, c'est pareil. Votre comportement avec le personnel qui est sous vos ordres, même avec les petites mains dans l'industrie, vous avez des gens qui nettoient, c'est fondamental. Si ce n'est pas propre, ça ne va pas, l'industrie du médicament. Donc tous ces gens-là, votre attitude, c'est là votre foi, elle n'est pas différente. Je veux dire, on n'est pas une fois à l'église et une fois dans le monde professionnel. Elle est partout. Ce n'est pas toujours facile. Hein.
On retrouve aussi les paroles du cantique. Toi, le tout-puissant, le serviteur. Considérer l'être humain dans sa dignité et dans son utilité.
Et surtout, se dire toujours qu'il ne faut jamais désespérer d'un jeune. Que finalement, à un moment ou à l'autre, il s'en sorte. Et quand je rencontre dans la rue maintenant des anciens étudiants que j'ai eus, qui me disent « Ah, madame, maintenant, alors je vous dis, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, j'ai fait tel métier. Et pourtant, vous savez, hein, au BTS, hein, j'ai eu une mauvaise note en économie. Hein. » Oui. Je dis « Et alors ?»
Et à côté de ça, donc aussi l'engagement œcuménique dans des groupes bibliques. Mais nous allons en parler tout à l'heure, parce que ce qui est important aussi pour vous, c'est l'art, la poésie. Et vous nous avez apporté un morceau de Jean-Sébastien Bach que nous écoutons.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Simone Lago, vous êtes pharmacien, professeur d'économie, et nous allons parler des groupes bibliques œcuméniques que vous et votre mari, vous avez créés sur Toulouse. Mais pourquoi Bach ?
Alors Bach, c'est quand même une musique qui a été faite et qui nous relie avec les protestants. C'est la même musique. Vous allez au temple, vous avez du Bach, chez nous aussi. Jésus, que ma joie demeure, elle est pour nous tous. C'est important parce que quand j'avais 13-14 ans, j'étais donc dans une petite ville qui s'appelle Vizille, à côté de Grenoble, où mon père était principal de collège. Et j'avais avec moi dans ma classe une fille qui était allemande parce que son père était un prisonnier de guerre et qu'il était là. Et un après-midi, un jeudi, je ne sais pas ce qu'on devait faire, elle me dit ben, « il faut que je m'en aille parce que je vais au catéchisme ». Et moi, j'y allais le matin. « Ah ben, je lui dis, je vais avec toi ». Et comme elle était protestante, je suis allée pour la première fois de ma vie au temple. J'ai écouté le catéchisme. Mais j'ai dit, mais c'est la même chose que nous. J'ai compris ce jour-là que nous n'avions pas de différence profonde.
Un petit peu, il y a eu les guerres des religions.
Eh bien justement, c'est là où on prend conscience seulement que c'est du passé. Et que là, moi, ce que j'ai vécu ce jour-là, c'est avec la fille qui avait le même âge que moi. Nous étions en classe ensemble, on était en quatrième toutes les deux. Et donc, finalement, d'accord, on n'était pas, elle ne venait pas à la messe avec moi le dimanche matin. Mais franchement, rien ne nous séparait. Et c'est important parce que, après, bon, ben ça y est, c'était un souvenir de ma jeunesse. Et quand je suis arrivée en fac, là, je suis allée à l'aumônerie, parce que le milieu pharmaceutique est un milieu d'argent. Et donc, c'était pas mes idées. Et donc, j'ai eu besoin d'aller chercher quelque chose, et c'est là où je suis rentrée à l'aumônerie. Et j'ai ensuite fait, je me suis engagée à fond dans le pèlerinage de Chartres, puisque j'étais à Paris.
Et le donc, pèlerinage de Chartres, c'est
voilà.
ça.
Voilà, c'est important, puisqu'à la fin, j'ai terminé, finalement, je serai responsable de route. Parce que justement, je sentais qu'il fallait que j'enracine ma foi dans quelque chose. Et une foi qui s'ouvre, pas limitée. Et c'est vrai que là, j'ai eu des aumôniers qui étaient des gens extraordinaires, c'était des jésuites en général, et c'était des gens absolument remarquables. Donc, si vous voulez, après, très naturellement, quand j'ai rencontré mon époux qui avait, il se trouve, la même évolution et la même démarche lui aussi, eh bien, très naturellement, peu avant sa retraite, il a créé, c'est lui qui l'a créé, un groupe public œcuménique. On aurait pu faire un groupe biblique simple. Non, œcuménique, et c'est ça qui était important. On a suivi des cours à l'Institut catholique. Mais ce qu'on voulait, c'était quelque chose... Alors, pas forcément avec des protestants, on n'en trouve pas forcément pour venir avec nous. Mais une manière de lire la Bible, de se dire qu'on le fait en union avec les autres.
C'est pour ça aussi que vous avez préparé avec quatre groupes bibliques œcuméniques aujourd'hui sur Toulouse. Ils vieillissent un peu, mais les quatre groupes bibliques ont préparé les prières pour la troisième semaine de janvier qui est réservée à l'unité. Et les groupes bibliques œcuméniques rencontrent des protestants, des orthodoxes, les calvinistes. Et nous aurons la semaine prochaine Mino Randriamanathena qui est pasteur au temple à Toulouse. C'est important, cet œcuménisme, aussi vers les non-croyants. Non, vers ceux qui se disent ne pas avoir la confiance dans les dogmes de l'Église catholique.
Si vous voulez, je trouve que ce qui est important, enfin, je vais le dire moi d'une autre manière, dans un groupe biblique comme nous avons nous, on n'a pas un cours. Nous nous approprions le texte. Nous avons une lecture et c'est parce que nous sommes en groupe, que nous sommes plusieurs, avec forcément des approches différentes, des passés différents, des sensibilités différentes, mais nous nous enrichissons de cette différence. Et ça, je trouve que c'est irremplaçable, parce que de ce fait, notre foi est une foi adulte, puisque finalement, nous trouvons dans les textes ce dont nous avons besoin, parce que c'est d'une richesse incommensurable.
Et on rencontre l'autre en
parlant
de soi-même.
On s'enrichit de la différence. Oui. Et finalement, nous disons ce que nous sommes. Et ça nous permet aussi de voir et de faire quelque part comme un examen de conscience. Comment est-ce que je réagis ? Ah, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Pourquoi l'autre dit ça ? Et je relis ma vie à ce moment-là. Et je relis aussi la manière dont je suis. Vous voyez, c'est finalement extrêmement riche. Il y a le moment et puis ensuite la relecture après.
Mais vous n'avez pas peur de faire des contresens ou bien d'attirer la Bible à vous et
mais non, de... justement, c'est tout seul, on risque ça. Et puis enfin, attendez, on est bordé, il y a quand même les cahiers de l'Évangile.
C'est
il y a
ça.
Quand même énormément de choses qui existent et qui existent de lecture possible. Donc non, non, non.
Dans les groupes bibliques, c'est une année le Premier Testament, l'Ancien Testament, et une autre année,
oui.
Et cette année, c'est Saint Jean.
Alors cette année, c'est les Actes des Apôtres.
Les Actes des Apôtres, pardon.
Ce qui est un véritable bonheur, étant donné que les Actes des Apôtres, c'est quand même l'envoi en mission. C'est-à-dire ce que nous avons à être et à faire.
Je demande souvent aux personnes qui acceptent l'invitation de parler de leurs convictions, quelle est la personne, le héros, le saint, la personne qui influence le plus leur trajectoire, leur vie. C'est Paul, c'est des auteurs actuels que vous lisez.
Non, je ne peux pas vous dire. D'abord, moi, je suis aussi très marquée par la formation ignatienne. Étant donné que j'ai eu la chance d'avoir des aumôniers qui étaient des jésuites. Ensuite, il se trouve que mon mari avait créé une équipe MCC dans l'entreprise où il était.
Mouvement des cadres chrétiens.
Mouvement des cadres chrétiens, qui était même le missiac au départ. Bon, parce qu'on n'est pas tout jeune. Et donc, et moi, j'étais à Ville Nouvelle quand je l'ai rencontré, qui était le mouvement de Jacques Delors, c'est-à-dire chrétien dans la ville, hein, dans la cité, dans la société. Donc finalement, on s'est retrouvés au MCC avec une spiritualité ignatienne et une manière de vivre. Et ensuite, j'ai continué. J'ai fait des retraites avec les Sœurs du Cénacle, spiritualité ignatienne toujours. Donc, si vous voulez, avec ça, on part pas dans tous les sens. On est quand même toujours ramené à l'essentiel.
Et puis il y a les enfants et les petits-enfants qui provoquent.
Qui nous stimule
dans notre
condition. Ça, c'est un bonheur.
Il y a des vœux en ces débuts d'année. Ce que vous pouvez proposer aux auditeurs, ce que vous pouvez proposer à vos enfants et petits-enfants et à vous-même.
Je dirais d'abord à tout le monde, courage, confiance, n'ayez pas peur et surtout, haut les cœurs. Et puis finalement, allez de l'avant. Allez de l'avant. Vous avez une vie à vivre, il faut la vivre. Ne soyez pas pusillanime. Allez, il faut y aller. Et puis si on prend des coups, on en prend. Parce que la vie, on en reçoit. Voilà.
Et on a encore le temps d'évoquer la responsabilité de l'Église dans cette société qui est parfois matérialiste ou qui est parfois sans espoir.
Vous voyez, hier, j'ai écouté sur France Inter une personne qui est dans le monde du spectacle qui disait « C'est scandaleux, on ouvre les églises et on n'ouvre pas les discothèques. » Eh bien, c'est quand même pas du même ordre. L'homme n'est pas que biologique, ce n'est pas que l'animal. Nous sommes des mammifères, d'accord, mais nous ne sommes pas que. Parce que le mammifère n'a pas une conscience, et c'est ce que nous avons. Nous sommes à l'image de Dieu, nous ne l'oublions pas. Donc c'est autre chose que nous sommes.
Merci Simone pour nous avoir transmis votre foi, vos convictions, et nous donner ce désir de combattre cette année dans... toute la simplicité de notre foi.
Merci à Benoît.